La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Kleenex.
Le temps, c'est de l'argent. Et avec Kleenex, les rendez-vous sont rapides.
Le calcul est simple. Infiltration, mammographie, échographie, radiographie. Vous avez votre prescription. KleenexImagerie.com.
Trois Kleenex. Un numéro, 653-9933.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
16h46, Pierre-Yves, bonjour.
Salut.
Tu veux me parler? Oh, une question. Avez-vous les compétences pour demain?
Oui, en fait, il y a quelques jours, semaines, en fait, il y a une étude qui est sortie de PSI, qui est une compagnie de consulting en ressources humaines. Puis là, ils sortent des compétences. Puis Sylvain, toi puis moi, on est de la génération, je sais pas si tu te souviens, mais bon, une entreprise, c'est en silo. Les finances, les ressources humaines, t'sais, la production. Donc, on était en silo, puis on nous disait à notre génération, spécialisez-vous, surspécialisez-vous. Et là, quand on regarde les compétences de demain, c'est-à-dire ce qui va être valorisé en post-pandémie puis avec les technologies qui sont de plus en plus présentes, regarde bien ça. Première, avoir une pensée critique. Te serais-tu douté de ça qu'on aimerait avoir des employés avec une pensée critique? Pas pour contester, c'est parce que dans les entreprises, il y a une maladie qui est répandue, hein, c'est un espèce de virus complètement fou. Ça s'appelle... On a toujours fait ça de même, mais aigu. Tu comprends-tu? Quand tu demandes à quelqu'un, comment est-ce que c'est fait de même? On a toujours fait ça de même.
Pose pas de questions, ça a tout le temps été fait de même. Bien,
ouais. Ça, on le fait, puis ça marche, puis on prend le rapport, puis là, tu demandes, mais ton sens critique est où? À quoi ça sert? On peut-tu optimiser? Donc, on va aller chercher ça.
Les jeunes acceptent de moins en moins ça, t'as raison. Ils veulent comprendre comment ça marche, puis pourquoi, puis etc.
Mais si tu comprends comment ça fonctionne, quand tu vas voir comment faire mieux, mais tu vas développer ton sens critique, fait que c'est bon pour ça. Deuxième chose, souplesse dans l'apprentissage. Tu sais, on va arrêter, faut arrêter de se faire croire, là, puis quand on est ceux qui sont aux études, l'écouter, c'est bien dommage. Mais il y a une époque où tu faisais ton bac ou ta technique, puis on te disait que t'étais bon pour ta carrière, puis t'aurais des, ce qu'on appelle des formations continues, mais souvent, c'était plus du maquillage, c'est-à-dire, bon, l'entreprise doit mettre un pourcentage de son chiffre d'affaires en formation, donc il y avait des formations, mais tu sais, là, c'est vraiment, faut que tu sois souple à l'apprentissage maintenant parce qu'il faut que tu te mettes à jour souvent, ça va trop vite. Fait que, ce que tu as appris, imagine si tu disais à quelqu'un qui a commencé sa carrière en 1980 qui travaillait sur un Commodore et qui avait dit « Moi, je connais le Commodore 64 », puis ça s'arrête là, tu me suis?
Oui.
Donc, il y a ça, tu sais, il faut que ça évolue. L'agilité numérique, il va falloir être agile numériquement, ça, on s'en doutait, là, d'être capable de justement faire des liens. Établir des relations, on cherche maintenant des gens qui sont capables d'établir des relations. Puis Sylvain, c'est pas fou quand tu y penses. Parce que les clients maintenant roulent, les employés roulent beaucoup. On dit, si tu es un bon employé, il va falloir que tu sois capable de toujours être capable d'être en mode établir des relations à tous les niveaux, sous-traitants, clients. Donc, ça, c'est une, imagine, une compétence qu'on cherche. Imagine-tu, tu vas en entrevue, toi là, tu développes ça facilement, des relations interpersonnelles. Avant, tu disais, voici mon CV, je suis capable de faire la job. T'sais. Acceptation de la diversité. Sylvain, je vais te donner un exemple personnel que j'ai vécu il y a longtemps, mais qui m'a appris ça. J'étais dans un cabinet comptable à Montréal.
Oui.
Ernst & Young, qui est rendu EY, mais il y avait, tu sais, de toutes les nationalités. Il y avait tous les genres. Il y avait tout, tu sais. Puis on avait commencé à parler de diversité à cette époque-là au niveau d'orientation sexuelle dans les bureaux, puis de créer des groupes de discussion là-dessus. Mais là, on parle aussi de diversité culturelle. Parce que si tu te mets en mode fermeture vis-à-vis les autres cultures, tu risques de frapper un mur. Puis je te donne un exemple. Une année, j'arrive sur un mandat. J'étais le plus jeune en apparence physique, mais j'étais le plus expérimenté en expérience, tu comprends?
Oui.
Puis il y avait un junior sur mon équipe qui avait 38 ans, puis moi, j'avais 23. Mais c'était moi qui étais en charge du mandat. 23 ou 24, je ne me souviens plus de l'âge exact. Et puis là, à un moment donné, j'ai contredit le gars sur quelque chose qu'il est en train de dire. Là, il s'est mis à bouder pendant une journée, tu sais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, il a boudé jusqu'à temps que l'autre personne m'en parle. C'est que je l'avais déshonoré. Je l'avais contredit devant des gens. Lui, il aurait aimé que
tu fasses ça autre à part.
Mais moi, j'ai été élevé dans ma culture, mon mode, puis il n'y a pas de déshonneur à se faire contredire devant quelqu'un si c'est un but, tu sais, pédagogique ou bon. Et donc, j'ai su ça. J'ai fait, OK, toi, la façon que tu es élevé, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben prochaine fois, je vais m'ouvrir à cette diversité-là de culture puis de diversité de logique, tu sais. Puis et la résilience, c'est un autre point. On nous demande d'être résilient, on s'en doute avec la pandémie, mais on dit, dans le fond, si tu es résilient, tu vas être souvent en solution pas en adaptation tout de suite. Tu vas être comme une guimauve, hein. Tu vas te mouler, tu vas absorber le choc. Mais justement, l'acceptation du changement, c'est une autre chose qu'on cherche. Ouais. Des gens réfractaires, on n'en veut plus dans les entreprises. Mais parce que ça va toujours changer. Si t'es pas content que ta job disparaisse, faut que tu sois ouvert au changement pour être capable d'en trouver un autre dans la continuité. Donc, la nouvelle technologie, la sous-traitance, l'impartition, ça fait partie des changements qui arrivent, l'automatisation. Puis tu peux pas avoir des employés en réticence ou en réaction à ça parce que accepter le changement, c'est maintenir l'entreprise, donc c'est maintenir ta job. Mais des fois, c'est pas facile. Parce que, imagine-tu si les typographes avaient lutté le changement?
Les éléments
les
de réverbère.
Les imprimeries.
Ouais. Hey, j'ai une question pour toi. C'est vraiment une question, OK? Il n'y a pas de jugement. Puis, elle n'est pas trop économique. Fait que si tu dis, je ne réponds pas parce que c'est pas économique, c'est philosophique, tu as le droit. Tu es donc en contact avec. Tu as parlé de diversité. Puis là, on sait qu'il y a des milieux culturels où l'honneur est extrêmement important. Les questions d'honneur. Ça peut parfois entraîner même certaines dérives, mais là, on n'est pas là-dedans. Mais l'honneur est plus important peut-être que chez nous. Quand on t'a avisé de ça, tu as dit, ah, je vais m'adapter à ça. Ma question est la suivante. C'est à toi ou à lui à s'adapter?
Je pense que c'est comme un peu quand tu gères des personnalités différentes de toi. Tu me gardes, Sylvain, mettons, l'équipe de radio.
Ouais.
On est tous différents.
Oui.
On s'entend, on a chacun notre réalité. Puis, je dis pas qu'il faut que je m'adapte, mais quand tu sens que quelqu'un a disons, quelque chose de... un point qui cachope avec dans ta relation avec la personne, puis toi, ça t'enlève pas grand-chose de t'adapter. Tu sais, moi, dans le fond, c'est comme un peu quand j'ai pris le cours des... Ça n'a pas de lien avec ça, je peux dire que c'est de personnalité difficile, mais le cours des personnalités difficiles au MBA, ça a été le cours le plus enrichissant professionnellement au niveau des relations humaines que j'ai.
Oh ouais? C'est quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu as appris là-dedans?
J'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient des personnalités difficiles, c'est-à-dire des tendances, sont pas nécessairement pathologiques, mais qui ont tendance. Je te donne un exemple. Il y a des profils comme passif-agressif, narcissique, histrionique. Donc, tu apprends les gens qui ont des comportements qui sont un peu extrêmes. Puis là, évidemment, quand on regarde la définition, on est tous un peu quelque chose. Fait que moi, j'étais, tu sais, un peu... disons que j'étais un peu narcissique sur les bords, comme tout le monde qui a un peu de personnalité, tu sais. Puis le passif-agressif, lui, c'est la personne qui, dans le fond, fait tout par en arrière, fait tout par en dessous, fait tout, tu sais. Tu sais, un passif-agressif finit à 89... Puis il faut qu'il aille porter, mettons, un document à l'autre département. Là, il est 4h20, il laisse ça sur son bureau. C'est un peu passif-agressif, tu comprends? Ou quelqu'un qui dit toujours « tout est beau, mais fais pas », c'est passif-agressif. Ouais. Donc, j'ai appris avec ça à dealer avec des gens qui ont des personnalités limites et qui ça m'a aidé à dire, au lieu de me battre contre une personnalité limite, parce que tu peux rien faire, faut que tu apprennes les mécanismes. Ben, la différence, c'est la même affaire. Si tu sais que la différence de culture, c'est tellement gros à déconstruire, puis que tu as un mandat de 2 semaines avec quelqu'un, tu vas pas aller refaire son éducation, ça n'a aucun sens. Là. Il a le droit d'être différent de toi puis de penser différemment.
Oui.
Donc,
oui.
Moi, ce que je dis, c'est, maintenant, j'avais compris que si je voulais discuter avec lui, il y avait un côté aussi à apprendre à parler différemment. Puis, je vais être honnête avec toi, quand j'étais dans la jeune vingtaine, j'étais pas mal binaire sur la façon de faire. T'sais, j'étais un peu moins tempéré qu'aujourd'hui, t'imagines-tu? C'était épouvantable. Moi, j'étais élevé à la dure, là. Work hard, play hard. T'sais, tu rentres au McDo, tu rentres chez Goodyear. Chez Goodyear, un moment donné, il y a un chef d'équipe de l'autre département qui est venu me menacer de mort. Tu comprends? Moi j'étais là-dedans. Là j'arrive dans un bureau comptable où est-ce que maintenant les gens se parlent avec respect puis se sacquent pas après. Déjà là, pour moi, c'était déjà wow, tu comprends? Fait que j'arrive là, puis là, en plus, il y a des sensibilités. Puis là, je me rends compte que le milieu professionnel, c'est aussi des sensibilités de... non seulement culturel, non seulement de personnalité, mais aussi des preuves passées que les gens ont eues. Ouais. Il y a des gens qui sont plus, ils ont à quoi de moins dur que d'autres.
Faut en tenir compte. Mais moi, ce que j'aime dans ta réponse, c'est tout le reste que tu as dit était bon, mais juste le début. Parce que ma question, je pense, qu'elle se pose, qui a à s'adapter quand on a une espèce de conflit entre deux, un pour qui l'honneur est très important, faut pas le critiquer en public, là. Alors, à qui doit céder? Mais faut pas le voir comme ça. Quand ta réponse, je pense, la réponse, c'est comme ça un peu que tu l'as exprimé. Pour qui c'est plus facile de faire le compromis? Est-ce que pour toi, c'est beaucoup te demander de le critiquer quand juste, de le prendre à part puis de le critiquer dans le blanc des yeux, comme on dit. Parce que ça, tu as le droit de le faire.
Juste dire, hey, moi, je ferais ça de même. Ouais. Comme, c'est une façon de parler aussi.
Alors que lui, c'est sûr que s'il est ancré là-dedans dans sa culture, ça fait longtemps, ben, ça va peut-être prendre. Lui aussi, il faut qu'il s'adapte, mais peut-être que ça va prendre un petit bout de temps.
Puis ne mélangeons pas culture personnelle et culture. Il y a des gens aussi qui, dans une culture, ils sont eux-mêmes.
Exactement. Hey, tu veux parler de véhicules en terminant? L'âge moyen des véhicules aux États-Unis, c'est une question quiz, il faut essayer de deviner.
Combien?
L'âge moyen des véhicules aux États-Unis. D'abord, là-bas, ils gardent le char bien plus longtemps que nous autres parce qu'ils n'ont pas le
ils n'ont pas notre hiver.
Puis ils n'ont pas notre hiver. Fait que moi, là, d'ailleurs, quand on va là-bas, c'est fascinant de voir des vieux chars qui ont l'air neufs. Tu sais, tu vas en Floride, tu regardes ça, tu dis, hey, est-ce un collectionneur d'auto? Non, non. C'est juste un gars ou une femme qui a gardé son char, puis il est encore bien propre. Alors
c'est encore son Dodge Caravelle.
Oui, exactement. Il y a encore des Plymouth, tu sais, il y a encore des Oldsmobile, des marques qu'on connaît
des
plus.
Dodge, des Dodge Arias.
Arias, exact. donc, j'aurais tendance à dire, t'as un peu, c'est âge moyen, par exemple. Je vais essayer 10 ans. C'est peut-être trop. Peut-être que c'est beaucoup plus jeune que ça.
Moi, j'ai 8 dans la tête.
T'as 8 dans la tête, toi?
Moi, j'allais à 10. Fait que, comme tu as dit 10, je vais dire 9.
Bon. On est à 12,1. C'est impressionnant, moi aussi, parce que l'âge moyen, c'est-à-dire que la voiture du milieu d'âge, là, c'est sûr que tu as des vintage qui font un peu dérailler la moyenne, comme il y a des voitures très récentes qui font dérailler dans l'autre sens, mais quand même. Mais ce qui est intéressant, ça, c'est les véhicules puis les camions légers. Puis ce qu'on voit, ça, c'est la moyenne, OK? Mais ce qu'on voit, c'est que les véhicules, comme les automobiles, durent plus longtemps ou ont un âge moyen plus élevé que les light trucks, puis les, dans le fond, les VUS, c'est un peu normal parce que ça fait moins longtemps que c'est sur les routes. Puis, mais ce qui démontre, c'est que de 2001 à aujourd'hui, aux États-Unis, on est passé de moins de 10 ans à plus que 12 ans. Donc, vos moyennes de référence étaient bonnes à une autre époque. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'il y a maintenant un marché secondaire, beaucoup plus actif pour les vieilles voitures, parce que comme les voitures durent plus longtemps pour plein de raisons, dont l'amélioration des véhicules, l'entretien, peu importe, ça fait en sorte qu'il y a le 2-3 ans de plus, ça crée de la valeur pour les véhicules, et c'est pour ça que les véhicules usagés reprennent une certaine, pas reprennent, mais gardent une certaine valeur très élevée par rapport à une autre époque. Tu sais, une autre époque, une voiture de 8 ans, c'est bien une valeur, mais elle valait plus grand-chose. Aujourd'hui, il y a encore une certaine valeur, parce qu'il y a encore un 3, 4, 5, 6 ans dans le corps s'il est bien entretenu.
Ça, on se faisait dire avant, ton char, tu le sors de chez le concessionnaire, puis il perd déjà la moitié de sa valeur, puis 5 ans après, 5, 6 ans, tu as fini de payer, il vaut plus rien. Bon, c'est tout, c'est plus vrai, ça. Là.
Mais c'est sûr que si tu roules à Montréal dans nos nids de poule, je te garantis que ton châssis va être usé. Mais
ça, sérieux, ça c'est quand tu te le fais pas voler.
Hey, j'y étais en fin de semaine, puis d'habitude je vais en train tout le temps, puis je prends le transport en commun à Montréal, là, c'est mon char. Mais là le train pandémie, je suis encore un peu, je sais pas trop. Regarde, j'ai pris mon char. La rue Notre-Dame à Montréal, quand tu sors du tunnel là, pour aller au centre-ville là, ça a-tu été bombardé, puis on l'a pas su? Y a-tu des bombes qui ont à un moment donné, qui ont sauté là, puis on est pas au courant?
C'est dangereux. Des fois, t'es à Montréal, c'est dangereux. Tu sais, tu rentres là, puis des fois, demandé, je vais essayer le boulevard Saint-Joseph, puis là, tu dis, coudonc, tu sais, non, je sens Syrie, moi, là, c'est, je te dis, c'est ta voiture, là, pognait des coups. Des fois, c'est rendu, je passais plus là. Tu sais, c'est quand même boulevard, là. Puis c'était magané, le pire, c'est au printemps. Mais tout ça pour dire, Sylvain, imagine, quand tu gardes ton véhicule plus longtemps, ça baisse ton coût d'assurance, parce que plus ton véhicule est vieux, moins ça coûte cher.
Oui.
Tes paiements sur 5-7 ans, quand ils sont finis, mais là, tu peux investir ailleurs. Et donc, il y a quelque chose. Évidemment, il y a le phénomène des ballons dont je pourrais te reparler, mais que changer toujours de véhicule, souvent, quand il est récent, c'est peut-être transférer une ballon à un autre véhicule. Puis ça aussi, ça coûte cher. Donc, ce que ça me demande, c'est qu'aux États-Unis, ils sauvent de l'argent sur leur véhicule par rapport à nous. Mais le prix moyen maintenant, 38 255 $.
OK, ça c'est cher.
Que les gens payent.
Que les gens payent pour un véhicule neuf, 38 255 $. On n'y est plus dans « je m'achète une Festiva à 7 400 $ ».
Mais si tu l'amortis sur 12 ans, c'est
oui, mais c'est pour dire à quel point, US, là. Imagine, convertir ça en canadien, et ça veut dire que c'est rendu cher un véhicule.
Ouais, les taux d'intérêt sont bas aussi. Là aussi, un peu comme dans le marché immobilier.
Ouais, puis tu peux le financer sur 10 ans maintenant, ici, facilement. Là.
Ouais, mais imagine, si tu mets de l'argent là-dedans, tu ne le mets pas ailleurs, donc tu as un coût de renonciation important. Tu sais.
Ouais. Hey, je vais dire ça en terminant en 30 secondes. J'ai vu à Montréal en fin de semaine, j'ai parlé à mes collègues, là, un penthouse, $1 million. Ça, tu combien de pieds carrés?
850.
Voyons, pourquoi est-ce qu'il y a la réponse de même?
C'est
toi qui l'as acheté? Tu l'as-tu acheté, coudonc?
Mais non, pour vrai, c'était 850.
850 pieds carrés, exactement.
Ça c'est rendu.
J'en reviens pas. Tu peux avoir à 850 pieds carrés, tu peux avoir encore à Québec un beau condo, 200-250 000 à 1200 pieds carrés.
Sylvain, tu peux maintenant acheter des condos de 300 000 à Montréal, puis tu vas avoir 500 pieds carrés, 550 pieds carrés. Mais tu peux avoir un ascenseur et une piscine sur le toit, par exemple. Mais tu vas payer la totale. Puis 500 pieds carrés, c'est bien cool, t'en es tout seul, là. Mais faire entrer une deuxième personne, tu seras à l'étroit assez rapidement.
Avec un enfant. Mettons.
Merci, Pierre-Yves. Merci. Salut. 17h. Pile. Non, des fois, on se console parce que ça a monté beaucoup à Québec quand même. Des gens qui trouvent ça cher de faire un tour à Montréal, sérieux. On parle même pas de Toronto, Calgary, là. Mais juste Montréal, il commence à avoir une bonne différence, là. C'est encore ici, ça a monté, mais c'est encore.
Raisonnable.
Ouais. Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour certains. Je connais des gens qui ont vendu des condos à Montréal, ils ont fait 100 000 en 3 ans. Genre, ils l'ont payé 300 000, ils l'ont vendu 400 000. En trois ans. Ça bouffe. Ça
en banlieue, vraiment... 4 ans, 110 000 de plus que ce qu'ils ont payé.
C'est pas juste. On entend ça. Je suis content pour eux autres. Tu comme pourquoi pas moi?
Oui, mais après ça, le problème, c'est qu'il faut que tu te reloges et les prix ont aussi augmenté.
Ouais, mais c'est une bonne nouvelle pour les baby boomers. Je connais des gens dans ma famille, notamment, qui ont vendu pour aller résidence. Tu sais, c'est fini, ils ne s'achèteront plus rien, là. Là, ils ont encaissé, là. Encaissé des centaines de milliers de dollars, puis tu as ça pour payer un bel appartement dans une belle résidence pour personnes âgées. Parce que tu as raison, pour nous, ça demeure. Tu vends plus cher, mais tu vas acheter plus cher ailleurs. Fait que bon. Mais la génération des baby boomers qui s'en va en retraite d'un CHSLD, encore eux autres. Tout le temps, eux autres. Merci. Ils ont toutes.
Merci.
T'es-tu là-dedans? T'étais-tu baby boomers?
Ben oui.
Carrément dedans?
Ben oui, dans les derniers, là, mais oui.
Ouais, quand même dans les derniers. Ouais.
Parce que là, même là, on s'entend pas sur... On a cherché à un moment donné, c'était quoi, les années des baby boomers?
Après-guerre, normalement, c'est après-guerre.
Ben, c'est après-guerre.
Mais après 45.
Mais après, c'est à partir de 45-6.
Ouais,
mais ça,
ouais.
Non, c'est, l'année exacte de la fin des baby boomers, ça varie selon ce que tu trouves comme information. Il y en a qui parlent de 60, 62, 63, même 65.
Il n'y a pas de loi là-dessus, en
passant. Non, il n'y a pas de règlement.
Il n'y a pas de règlement.
Non.